Amen. Nous te donnons tout comme nous l'avons chanté. Amen. On va entamer ensemble plusieurs partages autour de posséder le pays promis. Posséder le pays promis. Et Dieu me met à cœur de travailler ce thème-là. Et donc, j'ai commencé à le travailler. Et puis, on va ensemble découvrir quelques points là-dessus. Aujourd'hui, on va aborder qu'un seul point, mais au fur et à mesure, on pourra parler de posséder le pays promis. Comment est-ce qu'on rentre dans la plénitude des promesses de Dieu? Et lorsqu'on parle de posséder le pays promis, on peut se rappeler le texte de Genèse au chapitre 12, le verset 6 à 7, il est dit que Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Ou encore, lorsqu'on parle de posséder le pays promis, on peut regarder la promesse que l'Éternel des armées a donnée à Josué dans Josué chapitre 1, le verset 1 à 3. Il est dit, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi. Passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Nous sommes dans une saison en tant qu'Église, en tant que communauté, en tant que famille, en tant qu'individu, où il y a un appel de l'Éternel des armées à se lever pour prendre possession du pays. Et lorsqu'on parle de posséder le pays promis, c'est vrai, il est question d'un lieu physique. Mais au-delà de ce lieu physique, Dieu nous demande d'entrer dans les promesses qu'il a déclarées pour nous et pour chacune de nos vies. Les promesses qu'il a déclarées pour nous en tant qu'Église, les promesses qu'il a déclarées pour nous en tant que communauté, les promesses qu'il a déclarées pour nous en tant que famille, les promesses qu'il a déclarées pour nous en tant qu'individu dans ta vie. Nous pouvons vivre notre vie chrétienne sans jamais rentrer dans le pays promis, dans les richesses du royaume pour nos vies, dans l'accomplissement du plein potentiel de Dieu et dans la plénitude des bénédictions que Dieu a préparées d'avance pour nos vies. La Bible déclare que Dieu, il a préparé des projets d'avance pour nous. Et pour cela, tu as besoin de rentrer dans ces projets qu'il a préparés d'avance pour nous. Posséder le pays promis, c'est également entrer dans la position où il est possible de connaître la sagesse, la faveur et la puissance de Jésus-Christ. Il est possible de vivre la victoire de Jésus, ce qu'il a accompli, le tout accompli de Christ. Posséder le pays promis, c'est rentrer dans ce tout accompli de Christ et marcher comme des fils et des filles du royaume, ne plus être esclaves. Bien souvent, comme le pays et comme le peuple d'Israël, nous pouvons tourner en rond, sans jamais dans le désert pendant toute notre vie. Mais aujourd'hui, il est temps de se lever, déjà d'en avoir conscience et de se dire, Jésus, je veux me lever pour posséder le pays et entrer en possession des promesses que tu as pour moi. La dernière fois que j'ai prêché sur « Lèvons-nous et bâtissons ». Et il y a deux dimanches, notre frère Graham, il a partagé sur « Faites tout ce que le maître vous dira ». Et dimanche passé, le pasteur Olivier, il a partagé sur il nous a exhorté à apprendre à gérer le monde et notre vie, car nous sommes à Dieu et Dieu nous a tout donné. Et pour cela, nous avons besoin de rentrer dans ce tout accompli-là. Ces exhortations, prédications ont un fil conducteur. Ces exhortations, prédications ont un fil conducteur. Pour notre communauté, pour notre Église, pour chacun de nous individuellement, nous avons besoin de rentrer dans les promesses de Dieu pour nous et arrêter de tourner en rond. Une Église qui tourne en rond ne porte pas de fruits. Elle est stérile. Et ce constat, il peut s'appliquer également à nos familles. Il peut s'appliquer à nos vies individuelles. Ce constat, il peut s'appliquer à nos vies de couple. Ce constat, il peut s'appliquer à chacun de nous. Si tu tournes en rond par rapport à ton travail, c'est que tu ne portes pas de fruits. Le désert est là comme un temps d'apprentissage, mais arrivé un moment, Dieu te dit, sors du désert et possède le pays. Le preuve est là comme un temps où Dieu vient pour émonder nos vies. Mais il arrive un temps où Dieu te dit, lève les yeux à ce que moi je t'ai donné, à ce tout accompli là et prends possession de cela. Et nous sommes en tant qu'Église, communauté, centre biblique, vie nouvelle, dans cette étape où Dieu nous dit, levez les yeux et possédez le pays que je vous ai donné. Et si tu es en train de m'écouter, peut-être tu vas m'écouter par la radio, peut-être tu vas m'écouter au travers du site Internet où tu vas regarder ce qui s'est passé. Entends cette voix de l'Éternel qui t'exhorte comme le peuple d'Israël. Après avoir passé 40 ans dans le désert à tourner en rond, Dieu t'annonce cette bonne nouvelle. Lève-toi et prends possession du pays. Lève-toi et prends possession du pays. Et posséder le pays, aujourd'hui, on ne pourra pas tout couvrir. On pourrait parler de croire en la promesse de Dieu. Croire en promesse de Dieu, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. On pourrait parler des exigences pour pouvoir rentrer dans le pays promis. On pourrait parler du combat, comment ça se passe, quelles sont les attitudes à avoir. On pourrait parler de plein de choses, mais ce matin, on va rester sur une première base, c'est croire en la vérité de la parole de Dieu et refuser l'incrédulité. Parce que en tant que fils et filles du royaume, nous avons besoin de croire en ce que Jésus a fait, en la promesse que Dieu nous a donnée. Et pour cela, on va lire un texte, le texte de Nombre au chapitre 13. Nombre chapitre 13, on va lire à la fois tout le chapitre 13 de Nombre et on va lire le chapitre 14 également. Et je vous exhorte à le relire, à le retravailler. Il a dit dans Nombre chapitre 13 que Nombre au chapitre 13, le verset 1. C'est ce qui est affiché, non, c'est Nombre chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père et tous seront des principaux d'entre eux. Moïse envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous les hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Voici leur nom. Pour la tribu de Ruben, il y avait Shimua, fils de Zakur. Pour la tribu de Simeon, il y avait Shaphat, fils de Hori, pour la tribu de Juda, il y avait Caleb, que nous connaissons. Et pour la tribu d'Issacar, il y avait Jugial. Pour la tribu d'Éphraïm, il y avait Osée, fils de Nahum. Pour la tribu de Benjamin, il y avait Palti. Pour la tribu de Zabulon, il y avait Kadiel. Pour la tribu de Joseph et la tribu de Manassé, il y avait Gadia. Pour la tribu de Dan, il y avait Aniel. Pour la tribu d'Azer, il y avait Septur. Pour la tribu de Nephtali, il y avait Nachbi. Pour la tribu de Gad, il y avait Guiel. Tels sont les hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nahum, le nom de Josué. Josué qui veut dire sauveur, libérateur. Et Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il dit, montez ici par le midi et montez sur la montagne. Et vous verrez le pays, ce qui est, et le peuple qui y habite. Et s'il est fort ou s'il est faible, s'il est petit ou s'il est grand, c'est ce pays où il... Ce que c'est le pays où ils habitent, s'il est bon ou s'il est mauvais, ce que sont les villes ou les habitants où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce que c'est le terrain, s'il est gras ou s'il est maigre, s'il a des arbres ou s'il n'y en a point. Et Moïse donne. Il a dit monter. On va le voir. Mais après, il a dit une chose. Il a dit, ayez bon courage et prenez des fruits. Ayez bon courage. Retenez ce mot. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. Car c'était le temps des premiers raisins. Ils montaient, ils exploraient le pays. Depuis le désert de Tissan jusqu'à Rebo. Et sur le chemin de Hama. Ils montaient par le midi et ils allaient jusqu'à Hébron, et où étaient les animants, les enfants d'Anak. Les Hébron avait été construit 7 ans avant Tsoam en Égypte, et ils arrivaient jusqu'à la vallée des Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux, au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshkol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Et ils firent un rapport à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais les habitants, retenez ce mot, mais les habitants qui habitent ce pays, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et grandes. Et nous y avons vu les enfants d'Anak, ce sont des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens et les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Mais les hommes, les dix autres hommes qui étaient avec lui, parce que Caleb, il parlait à la fois en son nom et au nom de Josué. Mais les 10 autres qui étaient allés avec lui ont dit, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore les habitants. » Ça veut dire, c'est un pays où il est impossible de s'installer. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu les gens, enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les habitants murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit que ne sommes-nous morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront comme une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très excellent. Et bon, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyons pas rebelles contre l'Éternel. Ne craignons point les gens du pays, car ils nous serviront de pâturage et ils n'auront plus d'ombrage pour les couvrir. Ils n'auront plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignons point. Amen. C'est un texte, quand je l'ai relu plusieurs fois, c'est un texte qui est un peu triste. Pourquoi c'est un peu triste? Parce que toi, moi, on sait la fin et la suite. On sait clairement ce qui s'est passé. Donc, quand on le lit, c'est triste. Et donc, peut-être que comme on sait la fin de ce test-là, on n'en saisit pas la portée de ce qui s'est passé. Israël a été racheté hors d'Égypte par la main puissante de l'Éternel et Dieu les a conduits dans le désert. Là, Dieu leur a donné sa loi au mont Sinaï. En plus, Dieu les conduisait chaque jour de manière miraculeuse. Vous imaginez des gens qui marchaient et qui étaient conduits par l'Éternel lui-même par une colonne de feu et par la nuée. Ils n'avaient même pas à s'inquiéter. Dieu leur donnait de la manne à manger. Dieu, quand ils avaient soif, Dieu leur a donné à boire. Et quand on lit la Bible de Exode chapitre 12, verset 37, de la sortie d'Égypte jusqu'à ce texte qu'on vient de lire, Deutéronome chapitre 14, ça se termine au verset 35. Il y a une période d'un an et demi. Pendant ces un an et demi, le peuple a vu le miracle de l'Éternel. Le peuple a vu Dieu les délivrer de l'armée de Pharaon qui les poursuivait. Le peuple a vu la puissance et de la gloire de Dieu. Dieu a montré au peuple sa grâce et sa miséricorde. Ils n'ont manqué de rien. Ils n'ont manqué de. Quand ils avaient faim, Dieu leur a donné à manger. Quand ils avaient soif, Dieu leur a donné à boire. Mais tout s'est arrêté à un endroit. Et ce lieu s'appelle Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, les commentaires bibliques disent que c'est un oasis qui s'est trouvé dans le désert, dans la marche du peuple d'Israël. Ils ont marché, ça faisait un an et demi autour, et ils sont arrivés à cet oasis-là. Et les commentaires bibliques précisent que c'était un lieu où les sources et la végétation contrastaient, étaient différentes de l'aridité du désert qu'ils avaient traversé. Parce que le désert était dur. Et Kadesh Barnea se trouve à 11 jours de marche du lieu où Dieu leur avait donné l'étape de la loi. C'est vrai, ils ne l'ont pas fait en 11 jours jusqu'à Kadesh Barnea, mais ils se trouvent à 11 jours de marche. Kadesh Barnea est un avant-goût de la promesse divine. Mais également, Kadesh Barnea, c'est le lieu de la colère de Dieu. Parce que le peuple a douté et a refusé d'écouter ce que Dieu avait promis. L'étape de Kadesh Barnea est une étape spirituelle très importante pour Israël. Parce que c'est là où leur incrédulité a eu de graves conséquences. On peut le voir dans l'exhortation de Hébreux chapitre 3, vous pourrez le lire, Hébreux chapitre 3, versets 7 à 19. Ce texte nous appelle à rentrer dans le repos de Dieu et à ne pas suivre l'exemple de la génération qui est sortie de l'Égypte. Cette génération qui n'est pas rentrée dans l'héritage, dans les promesses de Dieu, à cause de l'incrédulité à Kadesh Barnea. Quel est ton Kadesh Barnea, mon frère, ce matin? Quel est ce lieu où tu t'es arrêté de croire en la promesse de Dieu pour ta vie? Quelle est la circonstance pour toi où tu as dit stop? Je doute de la main de Dieu. Quelle est cette circonstance-là? Ce matin, Dieu désire que tu refuses l'incrédulité, que tu t'attaches à ses promesses pour ta vie, pour ta famille, pour ton église et pour ton pays. Lorsqu'on lit la définition de l'incrédulité dans le dictionnaire biblique, c'est très long, mais je vais le résumer. C'est douter de la parole de Dieu. C'est douter des promesses de Dieu. C'est douter même de son existence. L'origine de l'incrédulité peut être morale et spirituelle. L'homme, dans son orgueil, choisit volontairement de ne pas croire à ce que Dieu a dit. Avant de revenir sur l'incrédulité, on va revenir sur le texte qu'on vient de lire ensemble. Et on va noter ensemble quelques points. Le premier point que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est que dans ce long texte que nous avons lu, il y a un choix et l'envoi de 12 hommes. Moïse, il va envoyer 12 hommes. Un homme par tribu pour explorer le pays. Parmi ces 12 hommes, il y avait Caleb et Osée, fils de Naoum, à qui Moïse va donner le nom de Josué, qui signifie sauveur ou libérateur. Nombre chapitre 13, verset 16. Ceux qui avaient été choisis étaient des chefs et des enfants, des chefs des enfants d'Israël. C'était des leaders, des personnes qui étaient écoutées. C'était des personnes qui étaient regardées. Et en m'arrêtant là-dessus, je me suis imaginé, et j'aimerais que tu t'imagines cela. Imaginons un peu la scène. Nous sommes parmi le peuple d'Israël. Toi, tu es parmi le peuple d'Israël à cette époque, dans ce désert-là. Et Moïse est en train de choisir 12 hommes. Voudrais-tu faire partie de ces 12 hommes? Aujourd'hui, tu connais la fin de l'histoire, mais essaie de te projeter. Es-tu de celui qui désire aller découvrir le pays, découvrir les promesses de Dieu et qui viendra dire aux autres ce que c'est les promesses de Dieu? De ce que tu as découvert, ou es-tu de ceux qui attendent que les autres viennent lui dire comment faire, quoi écouter, quoi croire? Es-tu de celui dont la vie est influencée par celui des autres, ou es-tu celui qui se lève pour avoir lui-même son avis? Dans ce texte, il est question de la direction pour le peuple. Mais prenons nos propres vies. Dans ma vie, dans ta vie que tu vis, veux-tu être d'un de ces 12 personnes qui ont été choisies pour aller voir, ou veux-tu attendre? Ça peut concerner ton église, ça peut concerner ta famille, ça peut concerner ton couple, ça peut concerner ta personne, ça peut concerner ton travail. Il y a ici deux postures. Il y a deux manières de voir les choses. Vas-tu attendre que les choses te tombent dessus, ou vas-tu être celui qui va croire les promesses pour agir comme un des chefs des enfants d'Israël dans le domaine de ta vie? Donc chacun dans un domaine de sa vie doit être celui qui se lève pour aller voir et explorer les promesses que Dieu a données. Aller voir. Et c'est ça le deuxième point que nous allons regarder. Moïse va leur dire, allez voir. Allez voir comment est le peuple. Allez voir ses faiblesses, allez voir ses forces. Mais quand ils voient, Moïse leur donne le secret lorsqu'on voit une situation. Lorsqu'on écoute les verdicts des médecins, lorsqu'on écoute des situations, lorsque des situations se présentent en nous, le secret. Ce n'est pas d'écouter nos propres sentiments, ce n'est pas de regarder ce qu'on est en train de ressentir, mais c'est de demander à Dieu le courage. Moïse va dire, ayez courage, ayez courage. Allez voir et ayez bon courage. Et la question, c'est quelle est mon attitude lorsque je vois des choses, lorsque j'entends les choses? Le secret, avoir du courage. Est-ce que dans cette situation, tu demandes à Christ de te donner du courage pour que tu ne te laisses pas abattre, pour que tu ne te laisses pas effrayer? Quelle est la nouvelle que t'a annoncé le médecin? Ou quelle est la situation que vit un de tes proches? Que vois-tu? Dieu te dit ce matin, aie du courage. Que vois-tu par rapport à ton église? Dieu te dit ce matin, aie du courage. Quel domaine dans ta vie tu regardes? Dieu te dit, aie du courage. Deutéronome chapitre 31, verset 6, fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Josué chapitre 1, verset 6 à 7, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche afin que tu réussisses où tu ailles. Face à ce que nous voyons, nous avons besoin de demander à Dieu de nous donner du courage si nous en manquons, parce que nous avons besoin de son aide pour croire ce qu'il a dit. Lorsque les 12 hommes sont allés explorer, ils sont allés explorer le pays pendant 40 jours et ils ont ramené les fruits du pays promis. Et écoutons un peu le rapport qu'ils font. Dans Nombre chapitre 13, verset 27, et 28, ils disent, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais ce mais, vous pouvez le souligner dans vos Bibles. Mais le peuple qui habite est puissant et les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants de Tanakh. Et ils vont même plus loin. Ils vont enfoncer le clou. Ils vont dire que le pays, au verset 32 et 33 du chapitre 13 de Nombre, ils vont dire le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vu sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu des géants et les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Les 10 hommes envoyés ont fait une description effrayante de la situation. Ils ont perdu le sens des proportions. Ils se voient eux-mêmes comme tels que les habitants du pays des Canaan les jugent comme des sauterelles. Et souvent, il y a des situations dans nos vies où nous avons cette même manière de regarder, où nous ne croyons pas la promesse que Dieu nous a donnée. Nous sommes fils et filles du royaume. Dieu, il a tout fait pour nos vies, les amis. Cette église, Dieu a tout fait et nous devons rentrer dans la bénédiction, dans les promesses que Dieu a pour nous. Nous devons porter du fruit et davantage de fruit. Dans ta vie, tu as besoin de regarder comme Dieu regarde. Dans ta vie de couple, tu as besoin de juger les choses comme Dieu les voit. Tu ne peux pas confesser des choses et faire le contraire de ce que tu confesses. Aux yeux des 10 espions, des 10 hommes envoyés qui étaient incrédules, le problème des géants était insurmontable. Tandis qu'aux yeux de Caleb et de Josué, plein de foi aux promesses de Dieu, le problème était insignifiant. En 2021, on entend cette histoire, on peut se dire comment ces personnes ont pu douter de la puissance de Dieu. Comment ils ont pu douter que le Seigneur va leur donner le pays en héritage. On est assis et on est en train d'écouter ce message et on peut se poser la question parce que nous, on connaît la suite. Mais dans les situations de nos vies, quelles sont les situations de nos vies où nous avons la même attitude que ces 10 hommes, où nous justifions nos croyances, où nous chérissons nos croyances, où nous ne voyons pas comme Dieu voit la situation. En parlant de croyances, j'aimerais que vous reteniez une chose, une phrase. Quand tu crois en une vérité inconsciemment, tu fais tout pour que cette vérité devienne vraie. Et c'est ça les croyances. Je vais prendre un exemple qui me concerne, par exemple. Quand j'ai fini mes études, c'était une époque un peu difficile pour des étudiants étrangers de trouver un poste à responsabilité, tout ça. Il y avait pas mal d'étudiants qui avaient été refusés par les préfectures, malgré qu'ils avaient de bons dossiers. Si tu crois que tu n'auras pas de travail parce que tu es noir, ou si tu crois que comme tu es noir, tu n'auras pas de poste à responsabilité dans une entreprise, parce que les gens sont racistes, alors rassure-toi, tu n'auras pas de poste à responsabilité, ni tu n'auras pas de travail. C'est ce que tu crois qui va arriver. Je vais prendre un autre exemple. Si tu crois que ton mari, ton enfant, ta femme, ta fille, ou je ne sais pas qui est proche de toi, ne va jamais changer et va toujours agir de cette manière, sache que la personne ne changera jamais. Ce que tu confesses, c'est ce qui va arriver, les amis. On peut faire croire les mensonges du diable que de croire ce que Dieu dit. Je vous l'ai dit, on est comme des chrétiens schizophrènes. Parce qu'on confesse des choses quand on est en colère, et après, quelques minutes après, on se met à prier pour que Dieu change. Les amis, Dieu, soyons cohérents. Au moins, quand tu es en colère, que tu dis des choses, demande pardon à Dieu et il va faire. Mais ne viens pas directement prier pour que les choses changent. Qu'est-ce que tu crois? Quelle vérité tu crois? Lorsque j'ai eu le permis, j'ai eu mon permis en France. Quand je conduisais et qu'il y avait un gros camion, j'avais une 106 à l'époque. Il y avait un gros camion que je devais doubler le gros camion. Je flippais, j'avais peur. Je croyais que le camion allait se déporter sur moi. C'était ma croyance, les amis. C'était ma croyance. Un camion ne s'est jamais déporté sur moi parce que tu roules avec une 106 et que lui, il a un gros camion. Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que la situation que tu es en train de regarder, tu crois qu'elle va changer? Ou est-ce que tu crois ce que tu es en train de ressentir? Ces croyances, c'est ce que j'appelle des mensonges, car la vérité, c'est ce que Dieu a dit. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Comme le pasteur Olivier a partagé dimanche dernier, nous avons été créés à l'image de Dieu pour régner et gouverner, et nous devons faire uniquement et nous devons faire uniquement ce que le Maître nous dira, comme Graham l'a partagé. La vérité, c'est Christ. Aujourd'hui, pour ma propre vie, mon désir, c'est de revenir aux promesses de Dieu et de les accepter dans ma vie, afin que ces promesses-là deviennent vie et apportent de la vie. Ce que tu vois, c'est la réalité, mais la réalité n'est pas la vérité. Olan? Et Patrick. La réalité, ce n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que tu ressens. La réalité, c'est ce que le médecin t'a dit. La réalité, c'est un jugement. La réalité, c'est ce que tu vis. La réalité, c'est ces choses. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Crois la vérité de Dieu. Crois la vérité de Dieu et rentre dans cette vérité-là afin de posséder les richesses du royaume. Vous voyez, il y a eu un impact de ce que ces 10 personnes-là ont dit sur le peuple. Il y a eu un impact. Comme les gens ne sont pas allés voir eux-mêmes, ils ont entendu. C'est comme ça, souvent, il est bon d'être un leader, de se lever pour des domaines de sa vie et de ne pas être en train d'écouter tout ce qui se passe comme un mouton et puis tu suis, tu crois. Non. Il est bon de se révolter un peu dans son cœur et de dire, Seigneur, viens à mon aide. Moi aussi, j'ai envie de posséder ce que tu déclares. L'impact que a eu la description qu'ont fait les 10 hommes sur le peuple, c'est que le peuple a cru ce rapport et ils ont oublié instinctivement les promesses de Dieu pour leur vie. Et ils se sont mis à accuser Dieu de les avoir délivrés de l'Égypte. Ils se sont mis à accuser Dieu de les avoir emmenés dans ce lieu-là pour mourir. Et même ils ont désiré nommer un nouveau roi, un nouveau chef. Et ils vont dire, les enfants d'Israël, le texte au chapitre 14, versets 12, 1, 2, 3 et 4 dit, tous les enfants, tous les Israélites murmuraient contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi Dieu nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se mirent l'un à l'autre, ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Retourner en Égypte, les amis, un pays qu'ils ont quitté il y a un an et demi. Il n'y a pas longtemps, c'est à cause de ça que je vous ai précisé. Un an et demi entre Exode chapitre 12 et Nombre chapitre 14. Un an et demi. Un pays qu'ils ont quitté il y a un an et demi par la main puissante de l'Éternel. Un pays qui a été retourné dans un pays qui a été dévasté par leur Dieu au travers des 10 plaies. Un pays qui continue à pleurer le deuil des premiers-nés. Retourner dans un pays qu'ils ont pillé la veille de leur exode. Retourner dans un pays où l'armée du Pharaon qui les a poursuivis a péri dans la mer Rouge, selon vous. Comment ils vont être accueillis en Égypte? Quel accueil Pharaon va les faire quand Pharaon va les voir retourner? Mais le peuple, ils croient, ils ont cru que l'Égypte était plus sûre, plus prudent pour eux que de croire en ce que Dieu a dit, en ce que Dieu va faire. Ce récit nous montre qu'avoir une conception limitée de Dieu, de sa parole, de sa puissance, peut s'avérer catastrophique pour chacun de nous. Et même pour notre famille, pour notre église, pour notre ville, pour notre travail, pour nos voisins, pour notre nation. Avoir une conception limitée de ce que Dieu dit, de ce que Dieu est capable de faire, de sa puissance, de son autorité, peut être catastrophique. On peut se retrouver comme le peuple à vouloir retourner en Égypte. Que de croire ce que Dieu a dit. Et l'Éternel avait fait sortir le peuple de l'Égypte par sa main puissante. Il avait ouvert la mer Rouge, les avait donné à manger dans la manne dans le désert, les avait donné de l'eau du rocher, les avait guidés par le feu et la nuit. L'Éternel les avait promis de leur donner le pays de Canaan en possession. Mais le peuple a fait le choix de ne pas croire. Les amis, l'incrédulité, le doute sont contraires à la foi. C'est vrai, l'incrédulité et le doute sont attachés à notre nature déchue. Dieu qui connaît nos faiblesses et notre incapacité à croire ses promesses désire ardemment, pendant que tu m'écoutes, Dieu désire ardemment, pendant que tu entends cette voix-là, Dieu désire ardemment que tu lui apportes tes doutes et ton manque de foi. Que tu lui apportes cela à son autel. C'est pourquoi nous pouvons dire tous ce matin et crier à Dieu. Comme dans Marc chapitre 9, verset 24. Viens au secours de mon incrédulité. Quelles sont les situations dans ta vie où tu ne crois plus la promesse de Dieu? Dieu te demande ce matin de dire, viens au secours de mon incrédulité. Parce que tu peux tout. Car les promesses de Dieu sont oui et amen. Pour nos vies, pour notre église, notre famille, nous pouvons déclarer, confesser que nous allons arrêter de tourner en rond et que nous allons rentrer dans l'héritage que tu as prévu pour chacune de nos vies, pour le centre biblique comme entrée, pour nos couples, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos voisins, pour ceux pour qui nous prions. Nous avons besoin de croire à la promesse. On va conclure avec ces deux textes. Josué chapitre 21, Verset 43 à 45. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et y s'installèrent. L'Éternel leur accorda du repos de tous les côtés, comme il avait juré à leurs ancêtres. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. L'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne restera sans effet. Tout s'accomplir. J'aimerais que vous reteniez cela. Toutes les paroles que Dieu a déclarées pour ta vie, pour la circonstance auquel tu es en train de penser aujourd'hui, Dieu désire te dire que toutes ces paroles s'accompliront. Aucune ne restera sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pose ta foi en l'Éternel et que l'Éternel vienne parler à ton cœur afin que tu t'attaches à ce que lui, Dieu, il a dit afin de posséder et de rentrer dans l'héritage qu'il a pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va incliner la tête. On va prier le Seigneur. Ah, tu es l'Éternel des armées. Tu es le Dieu puissant et fort. Nous te rendons grâce parce que tu es l'Éternel qui désire nous rappeler que ta parole est la vérité. Elle est lumière sur notre sentier. Nous pouvons avancer dans ta parole en toute sécurité. Sous les pas que toi, Dieu, tu as tracés. Nous désirons dire que ta parole est oui et amen. Nous la recevons dans notre cœur. Donne-nous de croire ta parole. Donne-nous de croire ta parole et que la foi soit générée dans nos vies de travers ce que nous venons d'attendre au nom de Jésus. Viens poser ta main pour ceux qui vont écouter ce message chez eux. Viens toucher, viens lever et que ton règne vienne au nom de Jésus. Amen.